Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et de Wani Wamakaran.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry.
Halou Dmondi.
Chienne Berry. Sigi Kafoba.
Trajectoire des jeunes vers la violence, miroir des dynamiques de genre à l'échelle de leur société. C'est le thème d'un rapport publié récemment par deux organisations, l'Institut malien Recherche Action pour la paix IMRAP au Mali et Indigo en Côte d'Ivoire. Alors il s'agit d'une analyse des rôles de genre et des pressions sociales au Mali et en Côte d'Ivoire. Le document fait le point sur les attentes sociales envers les jeunes filles et les jeunes hommes dans ces deux pays. Qu'est-ce qui explique ce phénomène? Quelles peuvent être les enjeux face à cette situation? Quelles peuvent être également les solutions? Nos invités, Mahamane Ibrahim, vice-président du Conseil national de la jeunesse et responsable des questions liées à l'employabilité des jeunes. Habibatou Nanyuma Traoré, président du réseau des jeunes femmes leaders des partis politiques et des organisations de la société civile. Et Ismaël Alassane, sociologue. Je suis Mohamedou Touré.
Le Grand Dialogue.
Alors aujourd'hui, nous allons parler de violence et de genre et chercher à savoir les défis par rapport à ces deux sujets dans le pays. Nous allons commencer par écouter un responsable de l'Institut malien Recherche Action pour la paix, Zoumana Fané, qui va nous parler un peu brièvement du contenu de ce rapport.
L'objectif principal visait juste à mettre le focus sur le rôle et les attributions même du genre dans les nouvelles formes de violence. On s'est rendu compte que la plupart du cas, il y a beaucoup de gens qui voient plus la violence comme étant quelque chose qui provient essentiellement des garçons. Et là, on a essayé surtout à chercher de savoir si effectivement il y avait un rôle également qui était attribué aux jeunes filles et aux femmes. Et là, les conclusions ont été intéressantes à plusieurs points de vue, dans la mesure où on s'est rendu compte que non seulement effectivement il y avait cet engagement féminin dans les trajectoires de violence, mais que cet engagement également faisait appel à un certain nombre de subtilités, par exemple, qu'il fallait analyser, notamment sous l'angle des pressions sociales qui étaient exercées sur ces jeunes femmes-là, pour satisfaire un certain nombre de besoins dans le cadre même de la transformation globale des mutations sociales qui sont en cours dans beaucoup de milieux maliens aujourd'hui.
D'accord, Mahamane Ibrahim, vous êtes vice-président du Conseil national des jeunes et responsable des questions liées à l'employabilité des jeunes. Vous venez d'écouter tout de suite Zoumana Fané par rapport à la question genre et violence. Que pensez-vous de tout ce qu'il vient de dire?
Et d'abord, avant de répondre à la question, je salue tout le personnel du studio Tamani, notamment vous et tous les autres. Et je salue également tous les auditeurs du studio Tamani, qui sont à Bamako et dans le Mali profond. Et après ça, je remercie également tous les auditeurs qui nous sont en train de nous écouter, même en dehors du Mali, je pense que vous émettez.
Tout à fait.
Et donc, sur la question du genre, je pense que c'est aujourd'hui une situation de chaos et qui n'est pas du tout, et qui n'est pas seulement nationale, c'est un phénomène qui est international. Et cette violence, ou bien ces violences se font au Mali, et ça s'est fait en Afrique, et ça s'est fait dans les autres pays également. Maintenant, en écoutant le frère, son témoignage, le témoignage du frère, en réalité, ces violences interviennent le plus souvent dans les familles, et même en dehors des familles, mais c'est l'homme qui est accusé de toutes les façons. Nous pensons que c'est l'homme qui doit porter toujours le chapeau et c'est les hommes toujours qui font la violence sur les femmes. Mais en réalité, moi je trouve que c'est à deux niveaux. C'est à deux niveaux. Quand on parle de la violence, en fait, quand on parle du genre, quand même c'est la femme. On voit toujours la femme, mais pour moi il y a les deux à la fois. Maintenant, cette violence quand même frappe nos sœurs, ça frappe nos mamans, ça frappe nos petites sœurs. Et pendant les crises, ces violences deviennent très très lourdes, puisque nous voyons, je pense que si vous suivez les réseaux sociaux, il y a même des militaires, c'est-à-dire les représentants de l'ONU qui sont là, qui sont censés soutenir, sauver les femmes et notamment les enfants de ces mais qui souvent se transforment en violeurs. Parce que si on prend, souvent j'ai l'habitude de voir sur les réseaux sociaux, et même ça, en pratique, on le voit. On le voit, je pense qu'il n'y a pas plus de...
Tout ce qui est sur les réseaux sociaux n'est pas vérifier.
Il y a même des exemples. Il y a des exemples quand on part au nord, par exemple, et aujourd'hui, je pense que les nordistes sont en train de nous écouter. Tu verras que quelqu'un qui est là pour protéger la population profite de la situation économique dégradante d'une femme et profite pour l'engrosser.
D'accord.
Et je pense que ça, c'est une violence. C'est une violence qui part au-delà même de la violence dont le frère vient de faire le témoignage.
D'accord. Abibatou Nanyuma Traoré, vous êtes présidente du réseau des jeunes femmes leaders des partis politiques et des organisations de la société civile. Vous, que pensez-vous de cette situation?
Bonsoir, chers auditeurs et chères auditrices. Bonsoir, monsieur l'animateur. Merci d'avoir considéré notre modeste organisation, ma modeste personne, pour contribuer à ce débat tellement important. Alors, par rapport à ma pensée sur ce sujet, comme mes prédécesseurs ont eu à le dire, sur la base d'exemples précises, déjà avec l'Institut IMRAP, par rapport à la recherche et puis aussi par rapport au Conseil national de la jeunesse, par rapport à tout ce qu'ils sont en train de faire. Bon, je peux vous dire également que je suis d'accord que cette violence existe. Mais il est important que nous soulignions que le genre ne concerne pas seulement la femme, parce qu'on voit très souvent qu'il y a l'amalgame est fait très souvent par rapport à ce sujet. Sur la question du genre. Le genre, ça concerne et l'homme et la femme. Donc, par rapport à cette discrimination, nous voyons très souvent que ce sont les femmes qui sont le plus lésées. Ce sont les femmes qui sont le plus lésées sur la situation. Parce que même quand on regarde la situation du Mali, nous allons nous rendre compte qu'il y a eu des cas de violence qui étaient orientés vers des femmes, jusqu'à ce qu'il y ait eu mort d'homme. Et vous n'êtes pas sans savoir que nous, notre organisation a marché par rapport à ça, par rapport au cas de Mariam, de Kamissa. On a marché pour dire notre désolation par rapport à toutes ces souffrances, par rapport à ce que les femmes subissent, que ça soit en silence ou bien que ça soit connu par tous.
D'accord.
Déjà, il y a cet aspect. Il y a plusieurs formes de violence. Il n'y a pas que la violence physique, il y a la violence verbale qui est là, il y a la violence psychologique aussi qui est subie par les femmes. Donc, c'est autant d'aspects, autant de points à considérer. Même nous, on avait eu à faire une petite étude par rapport à cette perception de quelques dirigeants, de quelques leaders sur cette question. Et là, on s'est rendu compte que, effectivement, non seulement il y avait une certaine discrimination et par rapport de la part de certains dirigeants, mais également de la part de certains hommes, mais également de la part de nous-mêmes qui nous mettons à côté. Donc, c'est tout un ensemble qu'il faut considérer.
D'accord.
Et je pense que si on se donne la main, on peut remédier facilement à cela.
Ok. Ismaël Alassane, vous êtes sociologue. Vous, que pensez, quelle analyse faites-vous de toute cette situation?
Bonsoir à tous vos auditeurs. Hein. Considérez que le réseau est un peu défectueux, donc par moment je n'entends pas très bien et peut-être que vos auditeurs ne m'entendront pas très bien.
Okay.
Je pense qu'il faut trier les cas. C'est-à-dire que la situation du genre en situation de, disons, le genre en situation de conflit et le genre dans un contexte normal, il ne faut pas qualifier les deux situations de la même façon. Globalement, les violences qui sont faites en situation de crise, ou en situation de guerre, on dit généralement que les femmes sont les plus victimes. Particulièrement par le fait qu'elles sont défavorisées par rapport à un certain nombre de choses, notamment le physique, même pour fuir la femme est défavorisée par rapport à l'homme. Et il y a généralement que dans certains milieux, vous trouverez qu'il y a beaucoup plus de femmes. Donc si les combattants ils arrivent, en général c'est aux femmes qu'ils s'attaquent. Et elles sont d'autant défavorisées par le sexe, ce qui les expose du même coup. Donc, ailleurs, en situation normale, la question du genre se pose, en fait, ce qu'on peut appeler les femmes sont défavorisées. On dit les femmes sont défavorisées. Mais cette situation a un visage. Le visage a un visage, c'est la pauvreté. C'est-à-dire que la situation de la femme en général, c'est que la femme a un faible pouvoir. Faible pouvoir économique, faible pouvoir politique. Tous ces faibles pouvoirs sous-tendus par des présenteurs socioculturels. Voilà un peu comment est-ce qu'on peut peindre les deux tableaux.
D'accord.
Et je pense qu'il faut les distinguer, il ne faut pas les confondre.
D'accord. Monsieur Maman Ibrahim, tout de suite, elle vient de le dire, une précision. Quand on parle de genre, il ne s'agit pas des femmes seulement, il s'agit des hommes. Mais pourquoi les gens pensent automatiquement, quand on parle de violence basée sur le genre, aux femmes?
Je pense qu'avant elle, moi, j'ai eu à le dire. J'ai eu à dire que le genre ne concerne pas seulement la femme. Il y a l'homme, il y a les enfants, il y a tout. C'est l'homme et la femme, le genre. Mais ce qu'elle a dit, moi, je pense que c'est à soutenir. Puisque la femme, naturellement même, Dieu a créé l'homme et la femme. Mais l'homme de capacité physique, l'homme domine la femme. En majorité quand même, en 90%. Maintenant, c'est cette domination physique. Et c'est cette domination même que nous pensons intellectuelle. Il y a par exemple, si on essaye de prendre l'islam, l'islam même quand même met l'homme au-dessus de la femme. Les deux religions, je pense. Islam et christianisme mettent la femme au-dessus de l'homme.
L'homme au-dessus de la femme ou la femme
hein? La femme, l'homme au-dessous, en dessous de l'homme. De l'homme.
D'accord.
L'homme est au-dessus de la femme.
L'homme est au-dessus de la femme.
Est au-dessus d'accord. de la femme, c'est ce que je voulais dire. Donc maintenant, on essaye de partir très loin, il faut voir aujourd'hui, même quand il y a des avis de recrutement, on dit que les candidatures féminines sont encouragées. Cela montre quoi? Que les femmes sont victimes d'une discrimination. Si on essaye de voir la discrimination, on part plus loin, on verra qu'il y a des... Par exemple,
mais là, quand on dit que les candidatures féminines sont encouragées, est-ce que cela n'est pas plutôt un encouragement vers les femmes pour dire que s'il y a le même niveau entre les deux candidats, hommes et femmes, la femme va avoir ce poste?
Non, c'est pour te dire qu'il y a cette discrimination aujourd'hui est enracinée dans les cerveaux. Cette discrimination est enracinée même dans les prises de décision. On est conscient que la femme est victime d'une discrimination. Voilà les raisons qui poussent même à l'école. Il faut voir, rares sont l'homme et la femme partent à l'école depuis à bas âge. Prenons une classe de première année fondamentale, tu mets 100 femmes, et 100 filles et 100 garçons. Mais je pense qu'arriver au niveau, bon, il n'y a pas de CP, au niveau DEF, arrivé au niveau DEF, tu verras que les femmes, il ne reste pratiquement que peut-être les 10%. Et au niveau BAC, il ne restera que 2%. Et au niveau maîtrise, peut-être que c'est 1%. Donc, cette discrimination, et qu'est-ce qui motive tout ça? C'est parce que nous savons que la femme, naturellement, c'est un être qui est faible par rapport à l'homme. La femme est là, il y a le poids des travaux ménagers qui attendent la femme. Tout ça, c'est des discriminations dans la maison et pourtant le garçon ne fait pas ses travaux. C'est les femmes, c'est les filles qui font ces travaux. Donc tout ça pèse très lourd sur les femmes. C'est ce qui fait que à la sortie, les femmes ont des problèmes pour pouvoir épuiser leur scolarité. Maintenant, pour terminer, je vais un peu appuyer ce que ma sœur a dit. En réalité, aujourd'hui, si on essaye de voir, d'analyser même, c'est très clair. Hein. L'homme et la femme, nous savons qu'il y a une discrimination qui est là, mais que nous considérons comme une discrimination positive. Exemple, ce que je viens de te donner. Lors des recrutements, on encourage les candidatures féminines. Cela ne veut pas dire qu'on prend la femme, on discrimine l'homme. Mais c'est un encouragement qui est là et peut-être qui est positif. C'est une discrimination qui commence à être positive aujourd'hui.
D'accord. Alors, Abibatou, vous avez parlé de cette confusion. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu les différents types de violences qu'on peut rencontrer à travers le pays aujourd'hui au Mali?
Oui, il y a plusieurs types de violences. Parce que, comme je le disais, il y a la violence physique. Ça, c'est lorsque on bat une femme, soit avec la main, soit avec un instrument ou quelque chose d'autre. Et il y a également la violence psychologique, la violence morale, comme je l'avais dit. Ça, c'est par rapport aux insultes et puis les actes aussi qui font des actes pour humilier la femme, on va dire. Pour humilier la femme, pour qu'elle se soumette à certaines actions, à telle ou telle chose. Donc, c'est autant de choses à considérer.
D'accord. Mais tout de suite, est-ce que votre façon d'expliquer cette violence ne fait pas que les gens comprennent automatiquement que quand on parle de violence basée sur le genre, il s'agit de la femme? Parce que tout de suite, vous dites que violence physique, ça c'est quand il s'agit d'une femme qui est battue. Violence psychologique, ça c'est quand il s'agit d'une femme qui est humiliée. Est-ce que c'est pas la façon d'expliquer cette situation qui fait que les gens comprennent qu'il s'agit des femmes seulement?
Non, au fait, parce que par rapport à ce que je viens de dire tout de suite, cette violence, elle peut aussi concerner les hommes. Il y a des hommes qui sont battus, parce que je donnais l'exemple par rapport à la femme. Mais ça ne veut pas dire que c'est la femme qui subit cela tout le temps. Mais il y a des femmes, il y a des hommes, on est témoins, parce que ces cas sont moins visibles, puisqu'il y a moins de déclarations qui sont faites par rapport à ça, il y a moins de plaintes qui sont déposées par rapport à ces situations spécifiques. Mais il y a des autres factures. Ils existent bel et bien. Nous-mêmes, on en a vu et ça existe. Mais il n'y a pas, comme ils sont un peu minoritaires, ils sont pas nombreux, on va dire, raison pour laquelle ces cas sont connus. Mais également, et par rapport à la violence psychologique, il y a de ces hommes qui sont martyrisés par leurs femmes parce qu'elles ont un pouvoir d'achat, elles ont un pouvoir d'achat, un pouvoir financier, un pouvoir qui est supérieur à l'homme, qui se sent un peu inférieur. Il y a ces aspects aussi. Et ceux-là aussi qui sont diminués, qui peuvent se sentir diminués d'une manière ou d'une autre vis-à-vis de l'autre.
Justement, est-ce que c'est pas cette crainte qui pousse certains hommes à dire que leurs femmes ne vont pas travailler par peur que la femme ne gagne plus et que ne hausse le ton sur lui?
Bon, on a eu l'occasion de vérifier cette affirmation que vous venez de faire. Il y a beaucoup qui craignent effectivement cela et qui font en sorte que les femmes n'aillent pas travailler ou mettre beaucoup de barrières, barrières pour se sentir à l'aise. Bon, c'est propre à ces individus et chacun a sa manière de penser et d'agir, de trouver une solution à un problème donné. Donc, comme le goût ne se discute pas et qu'il est difficile aussi d'orienter d'une certaine manière ses actions, mais nous, ce qu'on fait, ce sont les sensibilisations pour qu'on puisse moins aller vers les violences et puis qu'on s'entende. Nous sommes complémentaires, on n'est pas fait pour que...
D'accord. Ismaël Alassane, voilà. Que pensez-vous de cette situation, vous, quand on voit que, madame vient de le dire tout de suite, que certains hommes sont victimes de violences, ils sont battus par leurs femmes, mais n'osent pas le dire parce que c'est une honte pour eux. D'autres également qui craignent d'envoyer leurs femmes travailler ou bien à l'école même pour suivre leurs études, par crainte qu'elles ne reviennent avec beaucoup plus d'argent et hausser le ton sur eux.
Bon, sincèrement, je ne suis pas certain que c'est ce qui bloque les hommes. Les hommes sont en général plutôt jaloux. Et puis, sincèrement, je pense que c'est la jalousie qui fait. Sinon, c'est très peu. Et puis, bon, c'est peut-être on peut en avoir, mais c'est des cas vraiment marginaux qu'on ne peut pas prendre pour des cas à évoquer dans un débat de ce genre. Maintenant, les hommes battus, mais écoutez, ça peut arriver, mais c'est encore des cas marginaux. Et en général, les hommes qui battent les femmes, mais des hommes qui battent les hommes, des femmes qui battent les hommes, il y en a très peu.
Oui, mais vous l'avez dit, violence, ça s'est élargi par rapport, c'est pas uniquement physique, ça peut être psychologique. Est-ce que quand on dit que derrière tout grand homme se cache une grande femme, est-ce que cette déclaration, elle est vérifiée et réelle au Mali?
Non, ça c'est, ça c'était, vous savez, ça c'est, vous rentrez un peu dans la culture purement africaine. Hein, c'est, en réalité, ça se dit aussi dans notre milieu.
Justement, l'objectif, c'est d'obtenir des réponses pour que le citoyen lambda qui se trouve au fin fond du Mali, qui traditionnellement ne considère pas ces différentes questions, pour lui déjà, l'homme est au-dessus de la femme ne doit pas travailler. Donc l'idée, c'est que vous puissiez donner des réponses pour que cette personne puisse comprendre réellement que ce qu'il est en train de faire est bon ou pas.
Non, en fait, il y a des situations qui arrivent, qui sont le fait contemporain, et je pense sur lesquelles il faut de plus en plus parler, communiquer. Aujourd'hui, il n'est un secret pour personne que lorsque les deux conjoints travaillent, les charges sont allégées au niveau de la famille. Ce n'est un secret pour personne. Maintenant, quelques hommes non vertueux qui pensent que la femme ne doit pas travailler. Bon, quelque part, vous trouverez qu'il y a de la jalousie là-dedans. C'est souvent des gens des hommes qui aiment trop leur épouse. Ils pensent que si elles sortent, elles vont les échapper. Ça, c'est une possibilité. Bon, il y en a aussi qui sont un peu continuent d'être travestis par l'effet, vous voyez, en fait. Des conceptions purement que je trouve sincèrement dépassées. La femme doit rester à la maison. Le rôle de la femme, c'est dans le foyer. Oui, dans le foyer, mais la femme doit pouvoir aller travailler parce qu'à partir du moment où nous fréquentons les mêmes universités, il n'y a pas de raison que la femme ne puisse pas aller travailler comme je vais travailler. Mais comme je dis, juste pour terminer sur le point, j'ai dit c'est le fait contemporain. Il faudrait communiquer dessus pour que de plus en plus les quelques pesanteurs tombent et que les gens comprennent qu'on est dans un environnement où le seul revenu de l'homme ne suffit pas pour faire face à la situation. Il faut qu'on se donne la main. Et comme on dit, c'est deux mains qui se lavent proprement. Une seule main ne peut pas se laver.
D'accord. Alors, Maman Ibrahim, vous voulez réagir. Est-ce que cela veut dire que les hommes doivent éviter de trop aimer leurs femmes?
Et je pense que ce niveau, cette conception est très très lourde. Aujourd'hui, si on essaie de voir qu'est-ce qui motive la famille c'est l'homme, la femme et les enfants. Hier, si on essaie de voir le temps jadis, c'est l'homme seul qui sortait, il s'occupait tous les besoins de la famille, c'est l'homme. Mais aujourd'hui, tout est cher. La pauvreté est rentrée dans la famille. Les besoins, les charges de la famille sont lourdes pour le seul homme. Il faut que la femme aussi sorte. Et hier, lorsque la femme ne sortait pas, qui éduquait les enfants? Je pense que c'est la femme. Aujourd'hui, quand l'homme sort pour chercher, parce que ça ne va pas dans la famille, il y a la pauvreté, il y a la galère, ses revenus ne suffisent plus pour couvrir les dépenses. La femme également plie bagage, elle sort. Qui va éduquer les enfants? Moi, je pense que c'est ce côté qu'il faut voir. Les enfants sont directement récupérés et éduqués par la bonne à la maison ou éduqués par le gardien à la maison ou éduqués plutôt par la rue ou bien par la télévision. Et c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui.
Moi, est-ce une bonne chose ou une mauvaise chose?
Je pense que c'est une très mauvaise chose. Nous sommes de ceux-là qui pensons qu'il faut mettre la femme dans les conditions. Le rôle de la femme, c'est de rester à la maison, éduquer les enfants. Aujourd'hui, c'est-à-dire cette situation de chaos dans laquelle le Mali se trouve, c'est l'éducation qui nous a amené là. L'école ne peut pas à elle seule assurer l'éducation.
Ismaël Alassane pense que quand vous pensez comme ça, c'est parce que vous êtes jaloux.
Non, je pense que le frère Ousmane se trompe d'analyse. Je pense qu'il se trompe d'analyse. Puisque aujourd'hui, peut-être que ces aspects que je viens de signaler, peut-être que lui ne voit pas ces aspects. C'est ce que tout le monde dit. Nous, aujourd'hui, nos valeurs coutumières, nos valeurs sociétales, aujourd'hui, sont profanés. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne qui reste à la maison pour enseigner ces valeurs-là aux enfants. L'homme revient la nuit très fatigué. Peut-être ne revient même pas. Il revient juste pour dormir entre 1h du matin et pour retourner en ville.
Ce qui n'est pas convenable pour la femme. C'est une difficulté pour elle.
Voilà.
Une autre violence.
Oui, je viens. Une autre violence. Mais quand même, ça pèse sur l'éducation des enfants. Peut-être la femme elle-même ne reste pas à la maison. Mais pour aller plus loin, je vais laisser cet aspect-là. Peut-être qu'on ne va pas se comprendre, mais nous sommes des religieux, nous sommes des croyants et nous pensons qu'il faut aller vers ça. Responsabiliser la femme, que la femme reste à la maison. Aujourd'hui, si j'essaie de te donner un exemple. Je connais un monsieur. Sa femme, il dit à sa femme, je te paye. sa femme a la maîtrise. Je te paye, tu restes à la maison, tu éduques nos enfants pour que nos enfants ne soient pas des problèmes pour le Mali. Maintenant, le monsieur même, il travaille. Il a des entreprises partout. Il est à Bako du Corny Golf. Mmh. Il paye sa femme.
Ne dites pas son nom.
Je ne dis pas son nom. Il paye à sa femme 800 000 par mois.
Wow.
800 000 francs par
Vous
mois.
Vous êtes sûr que la femme obtient ces 800 000 francs?
Je suis certain. La femme, là, et il dit le jour où la femme va faire un seul mois sans apercevoir ça, de sortir pour partir travailler. Lui-même, il a une entreprise. Il dit sa femme ne travaille pas dans l'entreprise. Il travaille, il a des frères qu'il a mis dans les services étatiques. Il sait.
D'accord.
Maintenant,
d'accord.
Pour finir, ce que ma sœur a dit.
Avant de finir par rapport à cette question, je vais poser une autre question. C'est que c'est vrai que ça, c'est des cas rares, voir un homme qui paye sa femme à 800 000 francs pour qu'elle reste à la maison, ne pas travailler.
Éduquer les enfants.
Mais non, certains hommes également qui exigent que les femmes restent à la maison parce qu'ils pensent que c'est à eux de prendre soin de la famille et que la femme doit éduquer les enfants. Est-ce que réellement ils prennent bien soin de ces femmes?
Je pense que même quand on part à la mairie pour célébrer le mariage, on te lit un des articles qui dit que le mari a le dernier mot et il doit veiller sur la famille. Les charges de la famille lui reviennent. Je pense que cela suffit largement pour répondre à votre question. La femme, elle est bien à la maison.
Oui, oui, c'est
depuis que la femme est sortie.
Les textes le disent, la société également, c'est ce qu'elle dit, mais est-ce que dans la pratique, c'est ce qui est fait par les hommes?
Je pense que si ce n'est pas fait par les hommes, ça doit être fait par les hommes. Parce que pourquoi? Quand la femme sort, l'éducation sort et les enfants restent à la maison. La rue éduque les enfants. Ou bien les bonnes éduquent les enfants. Et ça nous amène où vers la catastrophe? Aujourd'hui, tout le monde se pose la question. Les enfants que nous voyons qui partent à l'école aujourd'hui, qui ont l'âge de 7 ans, de 7 jusqu'à à 18 ans, on se pose la question, mais quel genre d'éducation ces enfants ont reçu? Imagine des enfants qui ne dépassent même pas 12 ans, mais ce que ces enfants connaissent, même le grand-père ne connaît pas ça.
C'est une question très difficile.
Donc maintenant, pour terminer,
on va répondre tout de suite.
Laisse-moi terminer cette partie, donner cet exemple. Mm-hmm. J'ai deux promotionnels mm-hmm. avec lesquels j'ai eu à faire l'école. Mm-hmm. Et ce témoignage est très important. Mm-hmm. On s'est rencontrés il n'y a pas très longtemps. Quelque
les
part.
Deux sont et des femmes ou...
Les deux, c'est des femmes.
Des femmes, d'accord.
Tu vois, mariées. Mm-hmm. Donc il y a l'autre là qui me dit, est-ce que maman, tu sais qu'elle, elle traverse une situation très désagréable. J'ai dit quoi? Elle dit, depuis qu'on a fini nos études, une seule fois, elle a eu une opportunité. Et c'est son tonton, le frère à sa maman, qui lui a dit, bon, va chez un de mes amis, je te recrute là-bas. Mm-hmm. Elle est partie. Donc, ce dernier lui dit, tu connais la convention quand même. Elle dit, quelle convention? C'est son tonton. Il dit, va échanger avec son tonton. Mm-hmm. Et quand vous allez convenir, tu viens le lendemain, tu commences à travailler. Mm. Et elle est partie chez son tonton. C'est ce que le tonton lui a dit. Excusez-moi, que les auditeurs m'excusent. Que la femme, wallahi, c'est ce qu'elle m'a dit. Je suis en train de dire la vérité. Mm. Mais je ne dis pas son nom. Mm-hmm. Elle me dit que son tonton lui dit, la condition est que tu me livres ton corps 3 fois par semaine. Elle dit que son tonton sait qu'elle est mariée.
C'est son tonton qui veut. Ok, d'accord.
Voilà, 3 fois par semaine. Mais voilà. Elle-même, elle me dit, mais qu'est-ce qu'elle va donner à son mari dans ces cas? Donc, c'est pour vous dire, je ne dis pas que cela s'est fait partout.
Mais ça, c'est une violence.
C'est plus qu'une violence.
D'accord. Donc, vous êtes d'accord par rapport à cette violence qui doit cesser, mais vous pensez que la femme doit rester à la maison, prendre soin des enfants?
Elle sera à l'abri de beaucoup de choses et les enfants ne vont pas échapper à l'éducation.
D'accord. Abibatou Nanyuma Traoré, vous êtes une femme. Est-ce que vous partagez l'avis de Maman Ibrahim par rapport à ce sujet?
Je ne partage ni l'avis de Maman Ibrahim, ni l'avis des prédécesseurs par rapport à cette question.
Ok.
Parce que tout simplement, bon, ce sont des cas particuliers dont ils sont en train de partager avec nous par rapport à cette situation. Même si on prend le code de la personne et de la femme, le code du mariage, par rapport à ce qui est dit dedans, c'est vrai, c'est l'homme qui doit prendre en charge les charges du ménage. Mais il est aussi dit que, par ailleurs, la femme qui sait, la femme qui gagne, qui a des sources de revenus, peut aussi contribuer aux charges du ménage.
Oui, mais ce que Maman disait tout de suite, c'est qu'il n'est pas contre le fait que les femmes puissent travailler. Mais quand l'homme va au travail, il revient très fatigué. La femme également va au travail, revient très fatiguée. Les deux fatigués, bon, il reste juste à se coucher et dormir. Maintenant, qui va s'occuper de l'éducation des enfants aujourd'hui, quand les deux travaillent?
L'éducation des enfants doit se faire, à mon avis, doit se faire de façon collégiale. Ce n'est pas le rôle à un seul individu, soit à une femme ou bien à un homme, de le faire.
Oui, parce mais quand les deux sont parents, occupés à faire autre chose.
Mais c'est-à-dire, la responsabilité est partagée dans ce cas. On ne peut pas dire que oui, toi, tu n'as pas fait ceci, tu n'as pas fait cela. Si l'un ne fait pas quelque chose et que l'autre subvient à ce besoin émotionnel de la famille, à cette stabilité. Parce que si on prend le particulier, et cela, par exemple, nous qui avions eu la chance d'avoir un père aussi regardant, aussi disponible pour nous, pour nous accompagner, pour nous conseiller, là, nous n'allons pas nous plaindre qu'on n'a pas eu ça parce qu'il faut que c'est la maman qui le donne. C'est-à-dire, et cette question de genre, ce sont les rôles que la société attribue à chaque individu. C'est encore ça qui revient. Parce que tout simplement, le rôle qui est là dans la tête, c'est que c'est la femme qui doit exclusivement faire ça. Mais une femme qui est équilibrée, une femme qui est épanouie, elle est avec son mari. Et ces deux-là, ils transmettent ensemble des valeurs aux enfants qui vont constituer leur équilibre. Mais pas un seul individu qui va juste inculquer des choses. C'est-à-dire, nous sommes complémentaires. C'est une synergie d'action qui va faire que notre société va effectivement se développer
évoluer,
de façon
d'accord.
Harmonieuse.
Mais la crainte de maman, tout de suite, c'est le fait qu'il est un homme, il sait ce que les autres hommes font pratiquement. C'est que de voir sa femme se faire draguer ou autre chose, que je ne vais pas dire tout de suite, mais vous allez comprendre,
dont
sa femme
question,
va être victime. Pardon?
Ici, je pose la question, qui drague?
Ce sont les hommes, c'est parce qu'il sait de quoi il s'agit et qu'il a peur que sa femme soit victime de cette situation. Parce que, comme le dit tout de suite Ismaël Alassane, il l'aime trop, il est jaloux.
Bon, écoutez, c'est-à-dire, cela nous montre déjà une situation qui est là. C'est une situation de certains hommes qui ne jouent pas leur rôle, mais qui veulent que l'autre fasse l'impossible pour gérer une situation, alors que lui-même, il a un rôle à jouer.
Pensez-vous que c'est de l'égoïsme?
Il a un rôle de protection envers la femme d'autrui, et puis envers la fille d'autrui, parce que lui aussi, il peut avoir une femme ou une fille qui va subir cette situation. Donc, c'est pour cela que je dis que nous sommes complémentaires. Nous devons tous de travailler sur nous-mêmes et sur nos caractères pour que cette société puisse vraiment évoluer de façon harmonieuse.
D'accord.
Parce que c'est parce que nous avons l'habitude de dire... C'est-à-dire, il y a cette question de dissonance cognitive, parce que nous disons ce que... Nous disons quelque chose et nous faisons autre chose.
D'accord. Travailler
là,
sur ces caractères, d'où la bonne éducation. Ismaël Alassane, vous êtes sociologue. Vous venez tout juste d'entendre l'avis de M. Maman Ibrahim, qui est un homme, et l'avis de Habibatou Nanyuma Traoré, une femme. Les deux avis sont un peu contradictoires, on va dire. Mais vous, comment pensez-vous qu'on puisse expliquer aux gens et tomber d'accord sur une position et avoir une solution?
Bon, moi, je partage l'avis de madame, je crois que c'est Habibatou.
Habibatou.
Bon, maman dit qu'ils sont des religieux, ils sont des croyants, mais qui ne l'est pas? Et il prend un exemple d'un homme qui paye sa femme à 800 000 et un exemple d'une de ses amies qui est tombé sur un homme non vertueux. Tu ne peux pas prendre deux cas isolés pour vouloir extrapoler et tirer des conclusions. J'ai dit, on est dans un environnement, j'ai parlé du fait contemporain. Aujourd'hui, la situation est telle que la cherté de la vie fait que c'est extrêmement difficile, même lorsque les deux conjoints travaillent, de parvenir à satisfaire les besoins de la famille. À plus forte raison lorsque c'est seulement lorsque l'homme travaille. Mais écoutez, c'est très complexe, cette question-là. Lorsqu'on met la religion là-dedans, ça devient très complexe. De toutes les façons, la religion n'a jamais dit que la femme ne travaille pas. Moi, je pense qu'on est dans une société aujourd'hui, il faut faire confiance à la femme et il faut respecter la femme. Et de toutes les façons, les femmes se respectent. Sa copine, son amie dont elle a parlé, elle s'est respectée, c'est pourquoi elle a abandonné le boulot que le monsieur voulait lui offrir contre son corps. Je dis simplement qu'aujourd'hui, le temps sera son œuvre. C'est-à-dire que les gens comprendront par eux-mêmes. Parce que quand je suis ton voisin, je travaille, ma femme travaille, et que toi tu travailles, ta femme a un discours, et elle ne travaille pas parce que tu ne veux pas qu'elle travaille. Le poids de la charge qui pèse sur toi, comparé à moi quand tu vois, ça peut changer les mentalités. Mais on doit aller au-delà. Je crois que des associations comme celle de Mme Abibatou, ces associations doivent continuer leur travail. Les religieux doivent continuer leur travail de sensibilisation des hommes, pas des femmes. Pas de dire aux femmes de ne pas travailler, mais de dire aux hommes, soyez respectueux de la femme. La femme qui vient travailler chez vous, dans votre entreprise, elle ne vient pas pour autre chose, elle vient pour le travail. Comprenez ça comme ça. Et si vous remarquez, c'est les hommes qui ne sont pas... Je m'excuse, hein, je ne devrais pas généraliser de cette manière. Mais dans la plupart des cas, c'est les hommes même non vertueux qui s'acharnent contre le travail de leur femme, au motif que je vais te payer si tu vas. Mais en fait, parce que lui, ce qu'il fait aux autres femmes, il pense que d'autres hommes vont faire à sa femme. Donc, toute chose égale par ailleurs. Moi, je pense qu'il y a des situations qu'on ne peut pas généraliser. Et le mieux, parce qu'on est en train de...
Donc vous pensez que ce qu'il craint, c'est comme qu'on dit en bambara, « Niyeminke moutala obekitala ».
Bon, M. Touré, malheureusement, je ne suis pas très fort en bambara.
D'accord. Et vous avez parlé donc de cherté de la vie. Le rapport de l'IMRAP et Indigo estime que cette cherté de la vie est devenue une pression de plus en plus forte et précoce qui est transmise indifféremment sur la fille et le fils afin qu'ils contribuent économiquement au foyer. Est-ce que vous partagez cette analyse?
Reprenez la question, s'il vous plaît. Parce que
le rapport de IMRAP et Indigo estime que cette cherté de la vie, aujourd'hui, est devenue une pression de plus en plus forte et précoce qui est transmise indifféremment sur la fille et le fils afin qu'ils contribuent économiquement au foyer.
Bon, si c'est déjà une étude qui le dit, moi je ne vais pas à l'encontre des études parce que c'est sûr que c'est plusieurs thèses qu'ils ont dû confronter pour analyser à cette conclusion.
Oui, les exemples qu'ils ont cités, c'est que quand on voit, par exemple, la prostitution, ce qui pousse beaucoup de filles à faire cette chose, c'est que dans leur famille, il y a une pression sur elles qui leur pousse à contribuer économiquement au fonctionnement de la famille. Donc, c'est qui les pousse à aller faire cette chose.
Bon, il n'y a pas que ça. Il y a aussi quelque chose dont Maman a parlé, la dégradation de nos valeurs, la déperdition de nos valeurs sociétales. En fait, quelque part, l'éducation en est quelque peu responsable. Ce n'est pas nécessairement le fait que la femme reste au travail qui fait que les enfants vont être bien éduqués. Et comme Abibata l'a dit, l'éducation, en fait, est du devoir du père et de la mère. Il est vrai que la mère a un rôle prépondérant, particulièrement lorsque les enfants sont au bas âge. Mais je pense que c'est, en fait, l'éducation, c'est un tout. C'est à la fois la famille, l'école. C'est à tous ces niveaux, malheureusement, maintenant, que le bas blesse. Mais je pense que la question de la perversion des mœurs et de la prostitution qu'on observe, ça et là, il y a quelques cas qui s'expliquent sérieusement par le fait que la personne est n'a pas le choix. En fait, bon, même là, j'exagère en disant qu'elle n'a pas le choix. On a toujours le choix. Je veux dire que les personnes peuvent se retrouver dans une situation où, bon, vendre son corps devient un moyen pour survivre. La société doit les aider.
D'accord.
Mais dans un ensemble où
ceux qui s'en sortent doivent aider ceux qui sont en difficulté. C'est malheureusement toutes ces valeurs qui s'effritent maintenant.
D'accord.
Le chacun pour soi, malheureusement, prédomine et occulte complètement la solidarité qui avait caractérisé notre société.
D'accord. Il nous reste plus que 5 minutes avant la fin de ce débat, ce qui fait 1 minute 20 secondes pour chaque invité pour nous parler des solutions face à cette situation. Maman, on commence par vous. Aujourd'hui, qu'est-ce qui peut être une solution par rapport à la fin de cette violence sur le genre?
Je pense que je vais essayer d'aborder les deux questions, parce que ça, c'est sur la violence. Et l'autre question, je pense que c'est lié à la pauvreté également. Mm-hmm. Le poids des charges de la famille sur les enfants, notamment l'homme et la femme. Et qui sont, la femme est obligée de partir faire la prostitution, le jeune homme est obligé de prendre une arme et s'arrêter au bout du carré et tirer sur quelqu'un, prendre sa moto, vendre au marché, ou bien se lancer vers la migration clandestine et il va se faire vendre comme un esclave. Je pense que aujourd'hui la solution, elle est simple, en tout cas à notre niveau. Nous pensons qu'il y a des structures ici au Mali qui sont là pour aider les jeunes, notamment pour avoir des emplois, notamment la formation et l'insertion. Mais ces structures aujourd'hui, est-ce qu'elles jouent réellement le rôle qui leur ont été confiés? Parce que quand même, il y a des milliards qui sont injectés dans ces structures-là chaque année. Mais malheureusement, ces milliards ne sortent pas. Les jeunes filles et garçons ne bénéficient pas de ça. Tu trouveras que sur les 100%, la part, ce que les jeunes vont gagner dedans, ça ne va pas dépasser 0,5%. Et le reste part dans le fonctionnement des structures en charge
ce qui fait
de la mise en œuvre.
La mauvaise gouvernance, la corruption,
la mauvaise gestion.
Alors, qu'est-ce qui peut mettre fin à toute cette situation?
Nous pensons que ce qui peut mettre fin à cette situation, c'est de partir vers une assise nationale aujourd'hui. Les assises nationales sur l'emploi et la formation professionnelle. Ça, c'est un. Deux, nous pensons également que le DDR qui est en train de se faire, parce que nous sommes au Mali.
D'accord, on va pas parler de sécurité là, sinon on risque
non,
de
pas
sortir
de
du débat tout de suite.
Pas...
Et il ne nous reste plus beaucoup de temps. Par rapport à cette violence basée sur le genre, qu'est-ce qu'on peut faire pour mettre fin à cette situation?
Je pense que ce qu'il faut faire pour mettre fin à cette situation, c'est de combattre le chômage, c'est de combattre la pauvreté,
de travailler,
de les mettre dans les... Non, si on combat le chômage, quand les jeunes femmes travaillent, mais elles ne vont plus se prostituer.
Oui, d'accord. Donc vous êtes d'accord que les femmes doivent travailler, même si avant vous disiez qu'elles doivent rester à la maison pour... Donc vous êtes convaincu maintenant qu'elles doivent travailler. Alors, Madame Habibatou Nanyuma Traoré, la solution selon vous?
Oui, ce que je peux dire et que ce que notre organisation fait le plus, c'est de renforcer les capacités des femmes, des jeunes femmes, pour qu'elles atteignent un certain niveau d'autonomisation et des aptitudes psychiques et psychologiques qui leur permettent de résister à toutes ces tentations, à tous ces maux qui sont là. Parce que si elles sont autonomes de façon psychologique, je pense qu'elles peuvent mener des actions, elles peuvent refuser des situations dont on les accuse et d'accepter. Et elles peuvent aussi être source de motivation pour d'autres pour prendre ce chemin et puis ensemble travailler pour le développement, pour aussi que cette pratique
le pays puisse être développé. Alors, Monsieur Ismaël Alassane, très rapidement, vous, que proposez-vous comme solution?
Bon, je pense qu'en réalité, il faut sortir des schémas qui n'ont pas réussi. Aujourd'hui, il faut que les États africains, les États, en fait, les pays qui sont concernés par cette situation particulièrement, il y avait même le problème d'emploi et de chômage déjà en Europe et aux États-Unis. Mais nos États doivent vraiment investir dans l'industrialisation. Il faut créer l'emploi. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de dire on va former. Mais vous formez pourquoi? Évidemment, quand vous regardez aujourd'hui de ce dont on a besoin,
vous trouverez que les gens sont plus concentrés sur les études et l'éthique. Or, aujourd'hui, nos pays ont plus besoin d'une main-d'œuvre qualifiée.
D'accord, le temps ne nous permet pas de poursuivre. J'espère que les auditeurs ont compris l'essentiel par rapport à ce débat qui tournait autour de violence et genre. Quels sont les défis au Mali? Nos invités, Maman Ibrahim, vice-président du CNJ et responsable des questions liées à l'employabilité des jeunes. Habibatou Nanyuma Traoré, présidente du réseau des jeunes femmes leaders des partis politiques et des organisations de la société civile. Et Ismaël Alassane, sociologue. Je suis Mohamedou Touré, débat réalisé par Ibrahim Arandia. L'eau mise en onde assurée par Salim Djouara et à la régie vidéo Gagné Kanté. Merci et à demain pour un prochain numéro.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Et de Wani Wamakaran.
Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry. Halo Demandé.
Chenne Berry. Sigi Kafoba.
Le grand dialogue.